Arnaud Murgia, bonjour.
Bonjour.
Merci de m'accueillir ce matin dans votre bureau de la mairie de Briançon. Maire de Briançon, donc, mais aussi vice-président du conseil départemental des Hautes-Alpes, président de la communauté de communes du Briançonnais et président aussi du parc national des Écrins.
Un mandat auquel je tiens beaucoup.
Exactement, on va en revenir là-dessus. Je ne trouve pas dans votre bureau les anneaux olympiques symboliques des JO, des JO d'hiver 2030.
Ils viendront en temps et en honneur. En plus, je crois qu'on a tous profité de Paris 2024. C'était absolument merveilleux. Donc, on va laisser se finir les Jeux paralympiques qui sont aussi extraordinaires. Et il sera temps dans les mois qui viennent de travailler à mettre les anneaux des Alpes françaises 2030. Mais on y travaille, rassurez-vous.
En tout cas, vous avez le sourire. On l'entend bien. 26 compétitions, soit près du tiers quand même des épreuves qui vont être organisées sur votre territoire. Ski de bosse, soit acrobatique, big air, à serre chevalier, slopestyle, halfpipe, slalom, snowboard, compétition paralympique de snowboard cross et bank slalom à Montgenèvre. Et vous l'entendez aussi, le besoin de rassurer certains, je parle notamment des NOJO. Est-ce que vous êtes en mesure de trouver les mots pour les rassurer ou est-ce que c'est une tâche qui est vaine?
Ah non, mais moi les NOJO, je ne veux pas les rassurer, qu'on soit clair là-dessus, puisque de toute façon, je crois que tout le monde a bien vu que voilà des gens qui globalement... partager l'envie de désordre. Enfin, moi, quand on se dit NOJO et défenseur de l'environnement, mais que on partage des slogans du type ACAB, je précise tout de même en anglais All Cops Are Bastards, c'est-à-dire en gros qu'on appelle à la mort des flics, quoi. On fait la promotion des ZAD, des squats, des tags, du désordre. Moi, je pense que ces gens-là, globalement, on n'a pas grand-chose à se dire puisqu'ils cherchent le désordre. Et en plus de cela, ils font la promotion de ce que d'aucuns appellent la décroissance et qui n'a ni plus ni moins qu'apporté toujours, et ça se montre partout dans l'histoire, que l'appauvrissement généralisé. Bon.
Les NOJO, non. Ok. Et les
non,
autres
mais, non, mais les NOJO, je veux dire, aujourd'hui, juste, on a le droit d'être opposé aux JO et tout le monde a le droit d'avoir un débat là-dessus. Mais aujourd'hui, ceux qui se disent NOJO, globalement, sont ni plus ni moins qu'un groupuscule extrémiste de contestation, dont on voit bien, d'ailleurs, encore ces derniers jours, qu'ils sont aux côtés des soulèvements de la terre, aux côtés des no-borders, aux côtés de ceux qui combattent les forces de l'ordre, les gendarmes, l'autorité, l'ordre dans ce pays. Moi, ça, c'est pas pour moi. Bon, maintenant, qu'on ait besoin d'un débat sain et serein sur les JO, à la fois je le conçois et je le demande, je le propose même. Pourquoi? D'une part, parce que cette candidature, on l'a construit très vite, que je pense qu'il y a beaucoup de personnes au début qui n'y croyaient pas en se disant, mais finalement, oui. avec son copain Muselier, il est fou, ils sont dingues. Bon, on y est arrivé, c'est extraordinaire.
Et vous n'êtes pas dingue?
Je pense qu'il y a une part de folie dans tous ces projets, il en faut. Enfin, on ne fait pas de la politique pour simplement administrer, on fait pour essayer d'apporter une part d'espoir et essayer de temps en temps de se dire, après tout, ça fait 30 ans que dans le débat public ici, dans les Hautes-Alpes, on dit les JO, c'était pour les Savoies. Voilà, la Haute-Savoie, ils ont tout eu, ils ont eu le désenclavement, ils ont le TGV, etc. On ne va pas bouder notre plaisir maintenant de rentrer dans l'histoire de l'olympisme, et je crois que c'est une très bonne chose pour Briançon et pour toutes les Hautes-Alpes, parce que, et nous y reviendrons sûrement, ça va permettre, je crois, d'actionner des leviers, notamment sur le désenclavement qu'on appelle tous de nos voeux.
On ne va pas faire la même erreur qu'avec la 51, où on est passé totalement à côté de notre fait au Alpin.
Oui, très probablement. Moi, je ne veux pas refaire l'histoire et juger les uns et les autres. Ce que je note aujourd'hui, en tout cas, c'est qu'il y a une vraie unanimité politique, et surtout qu'entre le président du département, le président de région, le sénateur des Hautes-Alpes, la plupart des maires, on travaille bien ensemble. On arrive globalement à se serrer les coudes et Briançon, je crois, en est un bon exemple. On arrive à sortir des projets qu'on n'avait pas sortis par le passé. Donc tout ça, je crois que c'est de nature à être rassurant. Et surtout, je crois que sur les enjeux, on a la capacité aujourd'hui à être tous d'accord. Vous parlez de l'autoroute, c'est un très bon exemple. C'est pas le choix qu'on a fait. Après tout, intellectuellement, on aurait pu ressortir ce débat-là. On s'est dit non, il faut tout miser sur le ferroviaire. Enfin, je veux dire, on a l'expérience maintenant de ce qui s'est passé en 92 à Albertville. Il y avait des choses extraordinaires, mais on ne peut pas faire pareil en 2024. Et on sait très bien que notre enjeu, il est bien entendu routier, parce que je crois que tous nos auditeurs ont déjà connu les bouchons à Talard et que ce n'est pas acceptable. De la même manière qu'on voit bien qu'on a besoin de créer notre dépassement sur l'ensemble de l'axe entre Briançon et justement Gap et Talard. Et le président du département a déjà dit là-dessus que globalement, il fallait s'engager sur quelque chose comme 300 millions d'euros d'investissement pour moderniser les routes. Mais l'enjeu principal, c'est le ferroviaire. Et le ferroviaire, on voit bien qu'aujourd'hui, entre le Marseille-Briançon qui met quasiment 5 heures alors qu'on met 3 heures en voiture, et le train de nuit qui a le mérite d'avoir été sauvé, qui a le mérite d'avoir été un peu rénové dans ses wagons, mais qui connaît de grandes carences. Il a un matériel roulant qui date de 1975, c'est le plus vieux de France.
Et dès qu'il y a des travaux, forcément le Paris-Briançon est impacté, ça va commencer le 14 septembre.
Ça va même plus loin que ça, si c'était que les travaux, ce serait bien, mais on sait qu'on a un problème à Valence de connectivité avec le fret et que ça provoque des retards qui sont réguliers. Donc on a un enjeu majeur là-dessus, de la même manière qu'avec la connectivité sur l'Italie, c'est là-dessus qu'on veut miser.
Vous êtes trop optimiste quand vous dites on va régler ces problématiques, d'ici 6 ans ce sera réglé grâce au JO.
Je ne sais pas si on réglera tout. Ce que je suis à peu près certain par contre, c'est qu'on peut tout engager. Je crois que le Marseille-Briançon, on va le régler. Je pense que le reste, on peut soit le régler, soit à minima l'engager. Et je vais vous dire, si jamais certains des investissements majeurs dont on a besoin sont réalisés à 75% pour les Jeux et à 100% 2 ans après, c'est pas grave. D'ailleurs, on n'est pas à l'abri... comme dans tous les chantiers de Desiderata. D'ailleurs, vous vous souvenez probablement que le dernier tunnel côté italien dans le col du Mont-Genève pour les JO de 2006, il a été fini plusieurs années après. C'est pas dramatique. En tout cas, aujourd'hui, il y a un déclic, il faut s'en servir. Il faut surtout pas passer à côté de l'histoire. Et là, pour le coup, pardonnez le jeu de mots, mais le train passe sous les yeux, il faut monter dedans. Et ce sera pas tous les jours. Donc moi, je suis en tout cas résolument, non pas optimiste, mais engagé sur ces sujets, parce que je pense qu'il faut en faire vraiment une vraie chance pour les Hautes-Alpes et pour Briançon.
Ne pas passer à côté de l'histoire, c'est aussi l'histoire qui va accueillir les Jeux Olympiques du côté de Briançon, je pense au Fort des Têtes, qui accueillera le village olympique. Reste à savoir aujourd'hui si les entreprises ou alpines pourront répondre à ces marchés. Alors on parle du Fort des Têtes, on peut parler aussi des rails. Comment on peut faire en sorte justement que les entreprises ou alpines puissent en bénéficier de ces leviers qui seront lancés?
Alors, de toute façon, elles ne peuvent pas ne pas en bénéficier puisque on parle de chantiers qui sont importants et sur lesquels, de toute façon, il faudra tout le monde. Je note d'ailleurs que je crois que les entreprises au Alpine n'ont jamais autant travaillé qu'elles le font en ce moment à Briançon, entre l'ensemble de la ZAC, les projets hôteliers, la nouvelle cité administrative, le parc des sports et un peu plus loin, les projets qui sont engagés à Serre-Chevalier sur la salle des Alpes. Je pense par exemple à la rénovation du Club Med qui a vu quand même le gros Club Med engager plus de 40 millions d'euros sur ce sujet. Donc ça va continuer, c'est une bonne nouvelle pour l'emploi, que ce soit dans les travaux publics ou sur d'autres sujets. On a pour autant d'autres étapes à passer sur ce projet de village olympique. Le temps est très court. Moi, ce que je crois en tout cas, c'est que c'est la seule solution parce qu'on n'en a pas d'autre et que l'État, de toute façon, vous le voyez bien, n'a pas demain 100 millions d'euros dans sa poche pour donner une destinée à cette fortification. C'est peut-être dommageable, mais en tout cas, c'est un état de fait. Et que aujourd'hui, la visibilité des Jeux Olympiques peut nous attirer, je crois, l'attractivité dont nous avons besoin pour réussir un projet d'une telle envergure et que le fait que ce soit les Jeux Olympiques vont nous permettre d'accélérer nombre de procédures avec la loi olympique qui devrait être, si nous avons un gouvernement un jour, présenté au Parlement, et je l'espère le plus rapidement possible, pour nous donner toutes les chances de réussir. En tout cas, je le dis, il y avait deux options. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus avec les Hauts-Alpins. Soit on louait des hôtels. C'est-à-dire que finalement, on dépensait l'argent du contribuable à l'occasion des Jeux Olympiques pour verser des loyers à des opérateurs privés. Je crois que ça aurait été une bien mauvaise utilisation de l'argent public. Soit finalement, on essayait de trouver un endroit pour construire du neuf ailleurs et on aurait été probablement et à juste titre accusé d'aller artificialiser des sols ou de bétonner à l'occasion des Jeux Olympiques. C'est d'ailleurs ce que l'un des arguments principaux des opposants aux JO. Ben moi, je dis, on bétonne rien, on prend un monument historique auquel personne n'avait de réponse et on essaie de le rénover. Je crois que ça peut être une rénovation exemplaire et surtout, vous le savez, je veux que pour l'héritage, on y fasse des logements, notamment en mixité sociale, pour les saisonniers, pour les briançonnais qui ont aujourd'hui du mal à accéder à la propriété. Donc on peut en faire, je crois, un très beau projet.
On parlera des logements dans quelques instants, mais vous m'avez lancé sur un sujet forcément. La formation d'un gouvernement, ça traîne. Mmh. Certains dénoncent une mascarade politique menée par Emmanuel Macron et vous ?
Moi, je dénonce rien parce que je veux pas rentrer dans ce jeu ni du commentaire ni du pronostic. Je regrette, comme bon nombre d'acteurs et comme bon nombre de Français, cette dissolution que je n'ai pas vraiment compris, pour tout vous dire. Aujourd'hui, elle a amené à une situation de morcellement politique qui est encore pire. Moi, ce que je regrette, c'est le temps perdu pour la France. C'est bien entendu la part belle que nous faisons aux extrêmes. Et aujourd'hui, on voit les propos terrifiants qui sont tenus par la France insoumise, par Jean-Luc Mélenchon et ses amis, qui, moi, me font peur, je vous le dis. qui me font même très peur, parce que je crois que ces gens sont dangereux. Donc j'ai peur que cette instabilité fasse la part belle aux pensées les plus extrêmes. Et oui, c'est vraiment dommageable pour notre pays qui va perdre beaucoup de temps.
D'ailleurs, lors de l'élection de Valérie Rossi et Marie-Josée Allemand, députée du Nouveau Front Populaire sur les Hautes-Alpes, vous leur avez demandé de prendre leur distance avec la France Insoumise. Mmh. C'est chose faite aujourd'hui. Votre demande a été...
Je ne sais pas si c'est chose faite. Je ne suis pas là pour juger. C'est à elles de savoir sur quel pied politique elles veulent danser. Ce que je crois, c'est que...
En tout cas, elles ont soutenu les JO.
Dont acte est très bien. Je les en remercie. Il faut qu'elles continuent, surtout. Ce que je crois, surtout, c'est que... la gauche, elle a un honneur dans ce pays. Moi, je ne viens pas de la gauche. Mais ce que je crois, c'est que la gauche, elle a toujours dénoncé le communautarisme. Et je vais aller plus loin, le fait qu'on s'adresse à un certain nombre d'électeurs, communauté par communauté, pour aller gagner des voix et des votes, quartier par quartier. Et ça, si vous voulez, pour moi, ça va à l'encontre des principes fondamentaux de notre République. De la même manière que le fait d'avoir un certain nombre de responsables nationaux de la France insoumise qui tiennent des propos qui sont proprement antisémites, c'est une remise en cause de la laïcité à laquelle je suis très attaché. Et surtout, ça me choque. Je suis profondément choqué. Et cette espèce de tentative d'importation du conflit israélo-palestinien dans le débat public pour mettre les gens les uns contre les autres et finalement tenir des propos du matin au soir pour essayer de faire en sorte que notre pays aille de plus en plus mal et aille vers l'insurrection, tout en soutenant un certain nombre de groupes extrémistes, comme ça a été le cas par exemple à Sainte-Soline, où on va dire que finalement des gens qui cassent, qui jettent des pavés sur les gendarmes, qui squattent, qui dégradent, qui ne respectent rien, ne sont que des militants et co-responsables. Moi, je considère que tout cela mène dans une situation de vrai danger. De vrais dangers pour la République, et le simple fait pour des gens qui sont élus à l'Assemblée nationale que de légitimer tout cela, moi ça m'inquiète beaucoup pour l'avenir, et en tout cas je crois que ce sera l'un des combats, en tout cas ce sera le mien, dans les mois qui viennent, que de m'opposer à ces gens-là que je trouve particulièrement dangereux.
Le déficit de la France qui augmente selon Bercy, déficit public à 5,6% du PIB cette année, contre les 5,1% espérés, ce sera peut-être 6,2% en 2025. Le ministre démissionnaire des Finances, Bruno Le Maire, qui est l'un de vos amis politique, a mis en avant aussi le rôle des collectivités locales dans ce déficit, notamment qu'elles auraient dépensé trop d'argent. Alors vous prenez, vous, en tant que maire de Briançon, vos responsabilités ?
Oui, on les prend, puisque à Briançon, malgré tout ce qu'on a pu dire, la dette n'a fait que baisser. On l'a renégociée, réétalée, et aujourd'hui on investit à peu près deux fois plus que sous la mandature précédente, tout en continuant à faire baisser le niveau de dette. Moi, j'attire juste votre attention et celle de vos auditeurs sur le fait que il ne faut pas être un peu schizophrène sur ces sujets-là. C'est-à-dire que les mêmes qui aujourd'hui donnent des leçons de vertu budgétaire sont ceux qui réclamaient qu'on protège plus pendant le Covid. Et souvenez-vous des débats que nous avions. Il fallait protéger plus les cinémas, plus les restaurateurs, il fallait protéger tout le monde. Le gouvernement l'a fait à l'époque, on peut s'en féliciter puisque notre économie a tenu. Et je crois qu'aujourd'hui, un certain nombre de nos PME ne regrettent pas d'avoir été aidées, elles ont passé le cap. Bien entendu, ça a creusé fortement la dette. Et tout cela dans un contexte où on oublie un peu facilement que les quelques dernières années, à la fois de ce quinquennat et moi de ma mandature en tant que maire, ont été frappées à la fois par le Covid et par la guerre en Ukraine. Moi, j'ai démarré un certain nombre de projets avec un prix en face qu'on a assumé à plus 30%.
Donc il y a une responsabilité des collectivités locales, mais un contexte...
Non, je ne crois pas. Moi, j'essaie de jamais rentrer dans l'opposition entre l'État et les collectivités, parce que l'argent public, c'est l'argent des impôts, donc c'est l'argent de ceux qui travaillent. D'autre part, qu'il y ait des collectivités qui soient fortement dépensières, c'est une chose. Il ne faut juste pas oublier que quand l'État prend des décisions, comme par exemple l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, c'est très louable, parce que moi, je suis très heureux que les agents de la ville de Briançon, comme de la communauté de communes, aient été... augmenter de leur salaire de manière plus haute que l'inflation. Mais pour autant, c'est le gouvernement qui décide d'augmenter le taux et c'est les collectivités qui payent sans être compensées. C'est un peu la même chose que pour la taxe d'habitation, pour lequel on est compensé, mais pour la taxe d'habitation d'il y a 5 ans, si vous voulez. Entre-temps, il y a un peu d'inflation. Je crois qu'il ne faut pas rentrer là-dedans. Et en tout cas, je veux, moi, ne pas y rentrer.
Une rentrée sous quel signe pour vous, Arnaud Murgia ? Rentrée sous quel signe pour Briançon. Hier, vous avez notamment mis en place, en tout cas présenté le système de vidéoprotection sur cette ville de Briançon. Alors, c'est pour la police municipale.
La police nationale.
Et pour la police nationale, ouais, voilà. C'est l'une des difficultés, notamment sur Gap.
C'est un centre de supervision urbain qui sera géré par la police municipale le jour, puisqu'il travaille que le jour. On n'a pas de police municipale de nuit. Et la nuit, le centre de supervision sera géré, puisque les images seront transférées au commissariat en police nationale. Mais oui, c'est effectivement l'une des priorités. La sécurité, elle l'était depuis le début du mandat. Écoutez, moi, j'ai trouvé une police municipale qui n'en était pas vraiment une. Il y avait à peu près 5 agents ou 6 selon les moments. Moi, je me suis engagé à doubler ce nombre d'agents parce que je pense que la bonne jauge, c'est un policier pour 1000 habitants. Donc, on veut monter à 12 policiers. On les a armés. Ça a fait hurler l'opposition. Ça se passe extrêmement bien. Et aujourd'hui, je crois que les Briançonnais voient les résultats. Il n'y a plus de trafic ni d'incivilité dans nos parcs. On a en plus de ça mixé l'ordre public, la sécurité du quotidien à la rénovation. Le square Jean-Rousson en est un bon exemple. C'était un endroit totalement délabré dans lequel il y avait beaucoup de trafic et beaucoup d'incivilité. Aujourd'hui, c'est un endroit dans lequel on revoit les familles venir et j'en suis très heureux. Donc on n'est pas là pour essayer de remplacer la police nationale, d'ailleurs, qui a fait très bien son travail. On a bénéficié d'une opération Place Nette. La police nationale a vu ses effectifs augmenter grâce au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, que je remercie. Mais pour autant, je crois que la ville devait prendre ses responsabilités, elle les prend. Maintenant, pour répondre à votre question initiale, le projet de l'année, l'actualité de l'année, c'est les grands travaux doivent se terminer dans les mois qui viennent et que je souhaite terminer en temps, en heure et en qualité, c'est-à-dire la nouvelle cité administrative, les projets hôteliers, sera le premier 4 étoiles de la ville. Et c'est vraiment une fierté pour Briançon et c'est aussi des emplois à la clé. Je suis très attaché à ce qu'on ait une politique de l'emploi. Le parc des sports, bref, beaucoup d'investissements qui
le sanatorium
terminent.
Aussi que vous allez présenter dans quelques jours.
Le sanatorium dans quelques jours, c'est 25 000 m², donc 40% des logements sont réservés aux Briançonnais, à l'accession à la propriété, qui est pour moi le problème majeur. Et la Via Guizane aussi, il faut tout de même le dire, puisque nous aurons terminé en l'espace d'une mandature la totalité de la partie briançonnaise de la Via Guizane. Moi, je suis très attaché à la mobilité douce, au vélo, et je crois que c'est des belles choses.
Ça tombe bien que vous parliez des logements, justement. J'étais hier du côté de Briançon, encore une fois, pour le premier job dating de l'UPE des Hautes-Alpes, avec des chefs d'entreprise qui m'indiquaient, notamment France Travail, qui indiquaient que la principale difficulté sur le territoire, c'est le logement. Aujourd'hui, si bien qu'aujourd'hui, il y a des offres logées qui sont proposées.
Bien sûr. Alors, il y a deux problèmes différents, il faut les distinguer. Le premier, c'est le logement pour nos habitants permanents, pour les Briançonnais, pour les Hauts-Alpins. Et il va de soi qu'on est à un croisement à la fois des générations et des événements qui est très important, parce qu'il y a de moins en moins de terrains disponibles. Et on est issu d'une société fondamentalement paysanne. On divisait les terrains en deux pour loger son fils, qui lui-même divisait. Bon, on est à la fin, le parcellaire, il n'y en a quasiment plus, on ne peut pas pousser les montagnes. La loi ZAN est passée par là et a divisé par deux le nombre de terrains constructibles, ce qui est pour certains une mauvaise chose, mais pour autant, moi, je n'ai pas envie d'aller construire et d'aller déboiser toutes les forêts pour aller construire partout. Donc, il faut aussi qu'on soit respectueux de l'étalement urbain et de notre environnement merveilleux autour. Donc là-dessus, on a une vraie responsabilité, c'est de faire du logement en accession à la propriété. Et c'est des mécanismes administratifs, financiers qui sont complexes, mais globalement, sur Rhône-Azur, ce qu'on va faire, c'est qu'on permettra à des gens de rentrer locataires, de mettre de l'argent de côté et d'acheter, s'ils le souhaitent, plusieurs années plus tard, mais au prix dans lequel ils sont rentrés locataires. En fait, on va capitaliser pour eux ce qu'on appelle du PSLA. Il y a aussi les modèles de BRS. Il faut le faire parce qu'il faut aider les gens à devenir propriétaires. Moi, je me satisfais pas que dans le parcours d'une vie, on reste locataire. Il faut devenir propriétaire pour construire un capital et pouvoir un jour transmettre à ses enfants. Ça, c'est essentiel. Deuxième sujet est très lié à l'emploi, celui que vous mettez sur la table. Et on sait que on est au plein emploi, nous, dans le Grand Briançonnais.
5,4%.
C'est ça, on est au plein emploi. Donc, on a beaucoup de mal à recruter. Donc, on importe une main-d'œuvre qui vient d'autres départements français, par exemple dans l'hôtellerie et la restauration. Et donc là, se pose un problème de compétitivité. C'est-à-dire que si vous demandez à votre salarié de dépenser plus de 50% de son salaire dans son loyer, il ira ailleurs. Donc, on a besoin là-dessus, d'une part, d'avoir une prise de conscience collective, parce que c'est un sujet dont on doit traiter tous ensemble, hein, acteurs publics, acteurs privés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un opérateur privé qui a 100 employés, il doit se poser la question de savoir comment il les loge. Je pense que c'est à lui de porter ces sujets-là, en tout cas en partie. Nous, collectivité, nous avons la responsabilité de construire des logements saisonniers. Ce que nous faisons, puisque à Briançon, nous avions une trentaine de logements, on en a déjà créé une vingtaine de plus avec la reconversion de l'ancienne Meije. Et on va continuer. Moi, je veux que ça soit l'un des items de la reconversion du village olympique. On est en train de travailler sur d'autres projets de logements saisonniers, mais c'est absolument essentiel si on veut que nos entreprises puissent continuer à créer de l'emploi. Et je ne désespère pas en plus que nous puissions sédentariser ces personnes-là qui viendront faire une saison, deux saisons et qui se disent, ce qui est vrai d'ailleurs, qu'ils sont dans le plus beau pays du monde et qu'il faut donc y rester.
Merci beaucoup Arnaud Murgia d'avoir été avec
Merci
nous, en tout cas
vous.
De m'avoir accueilli ce matin dans vos bureaux
avec grand plaisir.
Du côté de Briançon.